Bon, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, tout à l'heure, à 11h, nous aurons un séminaire de Gordon Bem, professeur à l'Université of Illinois, à Urbana-Champaign, qui va nous parler de Spontaneous Symmetry Breaking and Fragmentated Bose Condensate. La semaine prochaine, ce sera Daniel Zaschman, du Weizmann Institute of Science, et actuellement à Heidelberg, qui nous parlera de Trapping of Fast Ions, Observation of Self-Bunching Effect. Et enfin, le premier mardi de décembre, le 5 décembre, ce sera Chiara Forte, du Laboratoire européen de spectroscopie non linéaire à Florence, qui nous parlera de Interference of Coherent Metawaves. Voici donc les séminaires. Et j'aborde aujourd'hui, après avoir étudié la diffusion d'un atome ou d'un photon par un condensat de Bose-Einstein, une série de trois cours consacrés à des effets un peu différents où le caractère collectif de la diffusion joue un rôle important. Et je vais commencer aujourd'hui par la description d'une très belle expérience réalisée à MIT sur la diffusion Rayleigh superradiante. Donc par un condensat de Bose-Einstein. Et je voudrais, si vous voulez bien, d'abord commencer par une discussion qualitative. Si vous voulez, jusqu'à présent, on s'est limité à un calcul d'ordre le plus bas, approximation de bornes, et on a supposé que un photon ou une particule arrivée sur un condensat était diffusée, et on supposait que si la prochaine particule qui arrivait sur le condensat retrouvait un condensat qui était dans le même état initial que la précédente. On supposait qu'il n'y avait aucune corrélation entre diffusions successives. Alors, ceci nécessite un peu d'être regardé de manière plus approfondie, surtout compte tenu des propriétés d'un condensat. En effet, lors de la diffusion du premier photon, il va rester une trace dans le condensat de cette diffusion. Et les propriétés du condensat font que cette trace peut rester un temps suffisamment long pour influencer les diffusions suivantes. Et peut-être avant de commencer, on peut essayer de voir un ordre de grandeur du temps de cohérence, du temps de mémoire d'un condensat, pour voir un peu pourquoi ces effets vont être importants. Si je considère donc une première particule qui est diffusée, elle va créer une excitation dans le condensat, et cette excitation va y rester un certain temps. Et on peut essayer de calculer un ordre de grandeur du temps qu'elle va rester. Si, on sait que les excitations, par exemple, si elles sont de type particule libre, se propagent à la vitesse h bar k sur m. Si donc L est la dimension du condensat, le temps que va mettre l'excitation à quitter le condensat va être L divisé par h bar k sur m. J'ai calculé, si vous voulez, déjà, j'ai fait déjà intervenir ce temps dans un cours précédent. Alors, d'autre part, si le condensat, et on l'a vu l'an dernier, le condensat est un objet cohérent et que sa longueur de cohérence est de l'ordre de sa dimension. En d'autres termes, l'incertitude d'impulsion, la dispersion d'impulsion, delta P, est directement reliée à L par les relations d'incertitude de Heisenberg. Donc, L est de l'ordre de h bar sur delta P. Donc, je peux réécrire ici h bar sur delta P divisé par h bar k sur m. Les h bar s'en vont. Et je trouve que tau, delta P, c'est m delta V, donc delta P sur m, pardon, delta P va être dénominateur, donc je vais avoir 1 sur k delta P sur m. Et delta P sur m, c'est 1 sur delta V, donc c'est 1 sur k delta V. Donc on voit que le temps de cohérence, un ordre de grandeur typique, c'est 1, l'inverse de la largeur Doppler. Alors, dans un condensat, delta P est extrêmement petit puisque L est très grand, l'ordre de quelques dizaines de microns, et par conséquent, ce temps est très long, comparé à une vapeur thermique où l'effet Doppler est beaucoup, beaucoup plus important. Donc, la propriété importante, c'est que l'excitation apparue lors de la diffusion peut laisser dans le condensat une trace qui va durer suffisamment longtemps pour influencer les diffusions suivantes et pour introduire des effets nouveaux. Et c'est un de ces effets que je voudrais donc discuter en détail aujourd'hui. Alors, regardons par exemple la diffusion Rayleigh d'un photon incident, K0. Dans un processus donc de diffusion, le photon incident disparaît, il est diffusé, et un photon diffusé apparaît, KI. La conservation de l'impulsion globale fait que une certaine impulsion H bar KJ a été transférée au condensat, H bar K0 moins KI. Et donc, une onde de matière de vecteur d'onde KJ égale K0 moins KI a été créée. Et le point important, c'est que cette onde de matière nouvelle qui apparaît va interférer avec le condensat et pour donner des oscillations de la densité, pour donner ce qu'on peut appeler un réseau de densité dont le vecteur d'onde va être KJ égale K0 moins K petit i. Donc vous voyez, voilà un exemple d'effet physique, donc le réseau, apparition d'un réseau de densité dû à l'interférence entre le condensat et l'onde de matière associée au recul des atomes qui diffusent le photon incident. C'est ce que j'ai dessiné ici. Alors, je m'excuse, j'ai pas mis les vecteurs d'onde, je les ai remis dans les notes qui seront sur le web, je vais les rajouter ici. Donc on a ici le photon incident K0, qui est diffusé en KI, et qui donne naissance à une onde de matière KJ égale K0 moins KI. Alors, j'ai dessiné ici le réseau de densité provenant de l'interférence entre le condensat qui est immobile et l'onde qui recule avec le vecteur d'onde KJ égale K0 moins KI. Et c'est ça que j'appelle l'empreinte. L'empreinte qui est laissée dans le condensat par la première diffusion, et c'est cette empreinte qui va ensuite modifier les diffusions suivantes. En effet, ce réseau de densité donc, qui est créé va diffracter le faisceau laser incident K0. On sait en effet que quand on a un réseau de densité, on a une diffraction qui va donc augmenter la diffusion Rayleigh du premier faisceau dans la direction KI. Donc il va y avoir plus de photons à cause de ce réseau de densité diffusé dans la direction KI. Et chaque fois qu'il y a un photon de plus qui est diffusé, ça va augmenter l'onde de matière et ça va donc augmenter le réseau de densité qui va lui-même augmenter la diffusion Rayleigh, qui va augmenter le réseau de matière. Et ainsi de suite, vous voyez qu'il y a une instabilité et une instabilité qui va conduire à une amplification à la fois de la diffusion Rayleigh dans la direction KI et du recul du nombre de matières dans la direction grand KJ. Et ainsi de suite. Donc on a une instabilité et qui va conduire donc à une amplification. Alors, ce que nous allons voir dans la suite, c'est que cette amplification peut se produire spontanément, quelle que soit la direction du vecteur KI. Mais si le condensat a une forme anisotrope, et c'est la plupart du temps le cas, le condensat a la forme d'un cigare très allongé, il y a une direction de diffusion Rayleigh qui va être privilégiée, celle, je le montrerai dans un petit moment, celle dans la direction du condensat. Donc, si le condensat est très anisotrope, le gain apparaissant par suite de la diffusion Rayleigh par création d'un réseau de densité est lui-même extrêmement anisotrope, et il y a une compétition entre les modes, il y a un mode qui va gagner les autres, et il va se produire donc une amplification spontanée de lumière dans la direction KI, qui est le long axe du condensat, avec recul privilégié du nombre de matière dans la direction K0 moins KI. Alors, ce phénomène est assez analogue en fait, au phénomène de superradiance, sur lequel je reviendrai dans le cours suivant. Donc, il m'a semblé important de faire un rappel sur la superradiance, parce que c'est un phénomène extrêmement important. Je ne le fais pas aujourd'hui, parce que je voudrais terminer la description de cette expérience. Mais quand on a un volume contenant des atomes, un volume extrêmement allongé, si on excite à l'instant T égale 0 les atomes, tous les atomes dans l'état excité, l'émission spontanée va être une émission spontanée collective de ces atomes, et les atomes vont émettre préférentiellement, de manière spontanée, superradiante, dans la direction du long axe du volume dans lequel ils sont contenus. Et je reviendrai en détail sur ce phénomène. Et ici, on a les expériences que j'ai décrites aujourd'hui présentent beaucoup d'analogies avec ce phénomène de superradiance. Alors, après cette discussion extrêmement qualitative, je voudrais maintenant essayer de faire un calcul un peu plus précis et un calcul semi-classique du gain. Et d'abord, bien sûr, calculer le réseau de densité précédent. Alors, le réseau de densité, je suppose donc que j'ai N0 atomes dans le condensat et NJ atomes qui reculent avec l'impulsion H bar KJ, et j'ai oublié la flèche, égale H bar K0 moins KI. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur le fait, est-ce que ces deux ondes interfèrent. Admettons qu'elles interfèrent pour le moment, elles interfèrent. Et la première est racine de N0, la deuxième c'est racine de NJ et puissance IK0 moins KI point R. Et le réseau de densité va être le module de cette somme de deux ondes au carré que multiplie rho de R tilde, où rho de R tilde est une densité normalisée à 1 représentant la forme du condensat. Hein, parce que le condensat n'est pas partout, je n'ai pas deux ondes planes infinies dans l'espace. Ces ondes planes n'existent qu'à l'intérieur du condensat, et je multiplie ça par rho tilde de R. C'est un peu, si vous voulez, l'enveloppe lentement variable du réseau de densité. Et quand j'élève au carré, j'obtiens rho i de R égale rho tilde de R qui multiplie N0 plus NJ plus racine de N0 NJ et puissance IK0 moins KI point R plus et puissance moins IK0 moins KI point R. Voilà donc le réseau de densité. Alors, quel est maintenant le nombre de photons K0 diffusés par unité de temps par seconde sur ce réseau de densité dans la direction K? Je vais faire, en fait ce réseau est en mouvement, hein, puisque K0 et KJ n'ont pas le même module, mais je vais négliger ça, je vais calculer la diffusion comme si le réseau était statique et je vais calculer la section efficace de diffusion élastique du faisceau K0 par ce réseau de densité. Je reviendrai tout à l'heure sur cette approximation. Alors, je reviens à l'un des cours antérieurs où j'avais calculé la diffusion élastique par un système de n particules et je sais à ce moment-là que le taux de diffusion, c'est le taux de diffusion par particule, R1, le taux de diffusion Rayleigh qui est bien connu, que multiplie le carré du module de la transformée de Fourier spatiale de la densité, rho de R, total, à la fréquence et puissance IK0 moins K point R. D'accord? Dans la direction K. Ça, c'est le taux de diffusion élastique. On sait que la section efficace de diffusion élastique renseigne sur le carré du module de la transformée de Fourier spatiale de la densité. Et le nombre de photons diffusés par seconde dans l'angle solide B2 oméga K autour de la direction K, faisant un angle θj avec la polarisation du faisceau laser, je suppose que le faisceau laser est polarisé dans cette direction, et je regarde la lumière diffusée dans une direction qui fait l'angle θj, eh bien c'est Rn, le taux de diffusion précédent, que multiplie sinus carré θj, ça c'est le diagramme de rayonnement d'un dipôle, que multiplie B2 oméga k, divisé par un facteur de normalisation qui est 8π sur 3, 8π sur 3 c'est tout simplement intégrale sur D2 oméga k de sinus carré de θ. D'accord? Donc c'est, si j'intègre, s'il n'y avait pas Rn, l'intégrale de tout ceci serait égale à 1. Alors, dans quelle direction la diffusion par ce réseau de densité va être importante? C'est dans la direction K voisin de KI. En effet, si je prends dans le réseau de densité précédent je prends l'intégrale somme de D3R, rho I de R et puissance IK0 moins K de R. Si je prends le terme et puissance moins IK0 moins KI, qui était tout à l'heure, quand je remplace rho de R par, quand je mets le terme de rho I de R proportionnel à et puissance moins IK0 moins KI, vous voyez que et puissance moins i k0 moins kx multiplié puissance i k0 moins k va me donner un terme en i puissance moins i ki moins k, et quand k est voisin de ki, ce terme va être égal à 1, et l'intégrale de la transformée de Fourier partielle sera particulièrement importante. Donc je retrouve le résultat, bien entendu, que comme j'ai un réseau de densité comme ça, la diffusion par ce réseau de densité sera importante dans la direction de Bragg. Donc je garde ce terme, et ce terme était proportionnel à N0NJ, donc le terme intéressant, provenant de l'effet de mémoire, ça va être N0NJ, l'intégrale de D3R, ah j'ai oublié ici D3R, rho de R et puissance IKI moins K de R pour K égale K0 égale KI en modulo carré. Et je vois que ce terme, si je fais K égale KI, il est maximal, et il vaut l'intégrale de D3R, dont je vous rappelle qu'elle est égale à 1, il vaut N0NJ. Donc dans la direction de diffusion K égale KI, le réseau de densité diffuse une intensité proportionnelle à N0NJ, au terme d'interférence entre les deux ondes. Dès que KI s'écarte de la direction K, l'exponentielle et puissance I KI moins K point R va osciller et l'intégrale va diminuer. Et c'est ça qui va faire que la diffusion Rayleigh due à ce réseau de densité va être concentrée dans un certain angle solide que j'appelle oméga grand J, oméga grand T, pardon. Et la définition précise de oméga grand T est la suivante. Je prends ce terme-là, que j'ai expliqué tout à l'heure, et je l'intègre sur l'angle solide. Alors, il vaut 1 pour KI égale K, et puis tend vers 0, donc son intégrale va me donner quelque chose qui va être, rho de R, je vous rappelle que c'est 1, hein, quand KI égale K, ce terme vaut 1, et quand j'intègre sur oméga K, je vais avoir quelque chose qui va être proportionnel à un angle solide, et qui va représenter un peu l'angle solide dans lequel est concentrée la diffusion par ce réseau de densité. Et le nombre total de photons diffusés par unité de temps autour de la direction KI, c'est donc R1, sinus carré θ j sur 8 pi sur 3, N0NJ, qui multiplie cet angle solide dont la définition précise est donnée par cette intégrale. Elle fait intervenir, bien sûr, la forme du volume dans lequel sont confinés les atomes. Alors, on va maintenant essayer de calculer un ordre de grandeur de oméga J, de oméga I, de cet angle solide. Alors, les plans d'égale densité du réseau de densité précédent sont perpendiculaires à KI. D'accord? Et tous les dipôles, tous les atomes d'un tel plan, rayonnent en face dans la direction KI, qui est perpendiculaire au plan. J'appelle SI la surface de la section du condensat par un plan perpendiculaire à KI. Alors, d'après un raisonnement d'optique bien connu, l'angle solide dans lequel l'émission va être concentrée, c'est l'angle de diffraction de cette surface SI. Ça va être donc égal à lambda sur L1, qui multiplie lambda sur L2, où L1 et L2 sont deux longueurs caractérisant cette surface. Et donc lambda 2 sur S, où S est la surface de cette section. Donc la valeur de oméga I, l'ordre de grandeur de oméga I, c'est lambda 2 sur SI, où SI est la surface de la section du condensat par un plan perpendiculaire à KI. Alors maintenant, l'effet d'anisotropie dont je vous parlais tout à l'heure devient évident. Si je prends un condensat qui est la forme d'un cigare allongé, la section de surface ici la plus petite est celle qui est perpendiculaire à l'axe du cigare. Et c'est donc le long de la direction de l'axe du cigare que l'angle solide va être le plus grand et que donc la diffusion va être la plus importante. Donc c'est dans cet axe qui va être privilégié et c'est dans cet axe que l'émission va prendre lieu de manière préférentielle. Donc un condensat allongé excité par un faisceau incident diffusera préférentiellement ses photons dans la direction de son grand axe. Donc l'émission spontanée d'un tel système ne sera pas isotrope, et comme je vous ai parlé tout à l'heure d'un effet de gain, ce gain va être particulièrement important dans cette direction, il va conduire à une compétition entre modes qui va faire que ce mode va gagner tous les autres. Je peux encore aller un peu plus loin. appelons SI, donc la surface de la section du condensat par un plan perpendiculaire à KI, appelons LI, la longueur du condensat dans cette direction, LKI, le volume du condensat V, c'est donc LI qui multiplie SI, et le nombre d'atomes dans le condensat, c'est la densité d'atomes, ρ0, qui multiplie le volume, c'est donc ρ0, LI, SI. Tout ça, c'est un ordre de grandeur, hein, bien sûr. Et le taux de diffusion le long de KI, ça va être R1, taux de diffusion relais d'une particule, sinus carré θj sur 2π3, 2π sur 3, intero nj ωj, je remplace ωj par lambda 2 sur SI, je remplace n0 par ρ0 li SI, SI s'en va donc, et j'obtiens R1 sinus carré θj sur 8π sur 2π sur 3, ρ0 lambda 2 li nj. Et sur cette nouvelle manière d'écrire le gain, je vois que le gain est d'autant plus important que LI est plus grand. Donc le gain est le plus important le long de la direction du grand axe du condensat. Et je vois apparaître aussi une quantité qui a un sens physique très clair. Ρ0, lambda 2, LI. Lambda 2, c'est la section à un facteur pi, 4, 8, 2 pi ou 4 pi sur 3 près, c'est la section efficace de diffusion à résonance. Rho 0, c'est la densité d'atomes, Li, la longueur. Donc, Rho 0, lambda 2, Li, c'est un facteur de proportionnalité près, l'épaisseur optique à résonance du condensat dans la direction, le long de la direction de KI. Donc, je peux mettre le gain sous forme de cette épaisseur optique que multiplie Nj, que multiplie le taux de diffusion relé à une particule R1 et le facteur angulaire sinus carré θj sur 2π sur 3. Voilà donc... une expression quantitative à laquelle on aboutit par ce petit calcul semi-classique. Alors, je voudrais maintenant critiquer ce traitement et montrer qu'on pourrait aller, on pourrait le faire de manière plus correcte. Alors, ici, je m'excuse, mais dans les notes que je vous ai données, c'est pas correct et je les ai changées sur le texte qui sera sur le web. Et je vais maintenant critiquer le modèle précédent. D'abord, un, la diffusion n'est pas élastique. Hein, la diffusion se fait sur toute une série de longueur d'onde, donc j'ai calculé la section efficace de diffusion élastique, ça c'est pas correct. Et d'autre part, on a fait interférer deux ondes, racine de N0 psi 0 et racine de Nj et puissance i k0 moins ki point r psi 0 de r avec psi 0 carré de r égale rho de r, tilde. Mais en fait, ces deux ondes, si par exemple je prends la diffusion d'un photon relais, d'un seul photon incident, et si je prends un condensat avec un nombre bien défini de particules, N0, quand le photon est diffusé, je vais avoir, dans l'état final, un condensat où il y aura N0 moins une particule, et une onde de matière où il y aura une particule. Donc à ce moment-là, N0 vaudra, en fait, N0 moins 1 et Nj vaudra 1. Mais je sais très bien, d'après les résultats du cours de l'année précédente, que deux ondes de matière ayant chacune un nombre de particules bien défini, de bosons bien définis, n'ont pas de phase relative bien définie. Donc ce réseau de densité dont j'ai parlé n'existe pas. D'accord ? Deux ondes ayant des nombres de bosons bien définis, N0 pour la première, N1 pour la deuxième, ont une phase relative qui n'est pas bien définie. Il n'y a donc, à proprement parler, pas de réseau de densité. Enfin, vous allez voir que ce n'est pas grave, parce que, en fait, ce à quoi je m'intéresse, ce n'est pas la diffusion élastique proprement dite, c'est la diffusion totale dans la direction KJ. Et comme je l'ai montré dans un cours antérieur, le taux de diffusion globale élastique et inélastique fait intervenir la transformée de Fourier spatiale de la densité à deux corps, ρ2 de RR'. C'est les transparents T31 et T32. Et si je prends comme état du système une sorte d'état de Fock où j'ai N0 particule K égale 0 et Nj particule K égale KJ, et si je calcule la fonction de corrélation à deux corps, je sais qu'il y a un réseau de densité. Ça veut dire que je peux considérer que le calcul précédent est correct. Mais il faudrait prendre, au lieu de prendre deux ondes qui interfèrent avec une phase relative bien définie, il faut prendre un mélange statistique d'ondes qui interfèrent avec une phase relative équipartie entre 0 et 2π. Et comme l'amplitude de diffusion dans la direction KJ ne dépend pas de la phase relative, l'intensité de diffusion ne dépend pas de la phase relative, je trouve le même résultat quand je prends le mélange statistique. Donc si je faisais le calcul correctement à partir de la densité à deux corps, qui serait un peu plus lourd, d'abord, je tiendrai compte de la diffusion élastique et inélastique et j'obtiendrai un résultat exactement équivalent à celui que j'ai donné. Je n'ai pas eu le courage de refaire le calcul complet avec ρ2, mais il est bien clair qu'il redonne la même chose. Donc, je passe maintenant à la description d'expérience. est d'abord la disposition des faisceaux. Alors ici, je m'excuse, mais je me suis heurté à une petite difficulté logistique pour les transparents que je vous présente. Pour les cours précédents, je vous ai parlé d'expériences qui ont été publiées à Physical Review Letters ou à Physical Review. J'ai écrit à Wolfgang et Thalé pour lui demander l'autorisation de montrer ces figures et de les donner dans les notes distribuées et sur le web. Aucun problème, parce que c'est FISREV et FISREV Letters, ils acceptent ça. Par contre, l'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui a été publiée, je crois, à Science. Je vais créer la semaine prochaine des expériences qui ont été publiées dans Nature, et c'est des revues commerciales qui interdisent la diffusion. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Donc, par contre, je peux vous les montrer, bien sûr, donc je vous les montrerai, mais je ne les ai pas mis dans les notes, c'est ridicule, je ne les mettrai pas non plus sur le web, mais c'est comme ça, je n'ai pas envie de me retrouver avec un procès de la part de Science ou Nature. Donc, je ne peux pas donc mettre dans les notes qui ont été distribuées, je ne peux pas mettre les photos de Science. Donc, je vais vous parler donc, de la référence, donc quand même bien sûr la référence. L'expérience a été publiée dans Science, 285-571. Je vais la laisser là-bas. Alors, on prend un condensat d'atomes qui a la forme d'un cigare de 20 microns de diamètre et de 200 microns de long. Il a bien la forme d'un cigare. Il est excité par un faisceau laser désaccordé de résonance de 1,7 GHz, perpendiculairement à l'axe du cigare, et se propage dans une direction faisant 45 degrés avec la verticale. Les impulsions varient, leur durée varie de 10 à 800 microsecondes. Nous verrons l'importance de ce point tout à l'heure, et l'intensité entre 1 et 100 mW par centimètre carré, et le taux de diffusion par atome à une particule, ça varie entre 45 photons par seconde diffusés ou à 4500. Et l'impulsion des atomes qui subissent le recul, parce que c'est ça qui est facile à mesurer, on mesure aussi la lumière qui est diffusée dans les directions quasi, est mesurée après un temps de vol. Et le temps de vol est suffisamment long pour que ces atomes se soient complètement séparés du condensat. Temps de vol de 20 à 50 millisecondes. Alors, maintenant, il y a un effet qui est très beau, qui est un effet de polarisation. En effet, j'ai représenté ici le condensat. Donc, je vais discuter maintenant d'un effet de polarisation, parce que j'ai représenté ici le condensat allongé dans la direction Z. Et donc irradié par un faisceau laser qui propage K0 perpendiculairement. Et supposons d'abord que la polarisation du faisceau laser soit parallèle à l'axe le long du condensat. À ce moment-là, le facteur sinus carré θ j est nul le long du condensat. Donc si la polarisation est parallèle à l'axe long du condensat, il ne peut pas y avoir de diffusion relais dans cette direction. Donc l'axe sur lequel il y a une grande probabilité donc, de diffusion, l'axe privilégié, est coupé. Donc, est inhibé par l'effet de polarisation et il n'y a plus d'effet de superradiance. D'ailleurs, en fait, toutes les expériences que j'ai décrites dans les cours précédents, le cours précédent qui était une série d'expériences sur la diffusion relais dans le régime particulier ou dans le régime phonon, ont été réalisées avec cette disposition géométrique pour éviter justement l'effet de superradiance et pour ne pas que les résultats expérimentaux soient perturbés par cet effet. Par contre, si donc le condensat étant comme ça, si on excite par un faisceau laser polarisé perpendiculairement, à ce moment-là, la sinus carré θ j le long du condensat est égal à 1, et l'effet de superradiance, bien sûr, n'est plus inhibé. Donc ça va permettre de comparer l'effet dont je vous parle aujourd'hui, lorsqu'il est inhibé, lorsqu'il n'est pas inhibé. Alors, regardons d'abord les résultats expérimentaux en l'absence de superradiance, c'est-à-dire quand la polarisation du faisceau laser est parallèle à l'axe long du condensat. Alors, la diffusion relais, à ce moment-là, se fait dans toutes les directions possibles, et on n'atteint pas le seuil au bout duquel l'effet dont je parle aujourd'hui se produit. Donc, on a simplement la diffusion relais ordinaire. Alors, au point de vue disposition, maintenant, les atomes absorbent K0, ils émettent KI, donc leur impulsion finale, c'est K0 moins KI, c'est KJ. Le module de KI est à peu près égal à K0, à très peu près égal à K0, et la division se fait dans tous les angles possibles. Quand je fais varier KI dans tous les angles possibles, je vois que l'extrémité de l'impulsion des atomes va être sur une sphère centrée autour de ce point, et de rayon K0. Donc si je prends une image de temps de vol, on doit voir une sphère. Donc, pour que vous ayez quand même une image, je me suis efforcé de dessiner à quoi ça ressemble, et puis je vous montrerai la vraie image expérimentale. Donc l'image de la diffusion est la suivante. L'image de temps de vol doit ressembler à la suivante. On a l'image du condensat, dont l'anisotropie a changé. Au lieu d'avoir un sigma dans cette direction, il est devenu maintenant une crêpe dans cette direction parce que l'expansion balistique est beaucoup plus importante dans cette direction que dans cette direction. Et puis j'ai un halo circulaire correspondant aux atomes qui ont été diffusés, qui ont reculé sous l'effet de la diffusion. Alors, je vous montre maintenant la photo de Science. C'est la photo supérieure. Voilà le condensat sans diffusion relais. Voilà, la figure C représente l'image de temps de vol après la diffusion relais. Qu'on augmente le temps de pause de manière à avoir une sensibilité plus grande, on voit parfaitement ici le halo circulaire dont vous parlez, qui n'est pas circulaire parce que l'angle de vision est à 45 degrés. Donc on voit clairement apparaître ici un halo correspondant à peu près à la vision de la sphère dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, venons-en maintenant aux résultats expérimentaux en présence de superradiance. Voilà, la polarisation du laser est perpendiculaire au plan du tableau ici. Donc, la diffusion préférentielle d'un photon peut se produire le long de la direction KI. À ce moment-là, les atomes reculent dans la direction KJ à 45 degrés. Mais le problème est symétrique. La diffusion relais superradiante peut se produire dans la direction opposée, et à ce moment-là, les atomes partent vers le haut avec un angle 45 degrés, mais dans l'autre direction. Donc, quand on fait l'expérience, on doit avoir deux nuages d'atomes partant à 45 degrés, plus ou moins 45 degrés, de la direction du faisceau laser incident. Et effectivement, c'est bien ce qu'on observe. Ici, on voit apparaître très clairement deux nuages d'atomes à 45 degrés vers le haut et à 45 degrés vers le bas, correspondant donc à cette diffusion relais préférentielle le long des deux directions possibles du grand axe du condensat. Alors, je vais maintenant, je laisse ma figure expérimentale ici. J'avais dessiné ici à la main l'allure de l'image de temps de vol. Et je voudrais parler maintenant de quelque chose qui est amusant, qui est la chose suivante. C'est qu'il peut y avoir une cascade de diffusion relais. En effet, prenons l'axe OZ suivant l'axe du condensat, l'axe long du condensat. C'est là sur lequel sont émis, donc de manière préférentielle, les photons diffusés. Si la durée de l'impulsion est suffisamment longue, et je vous ai dit tout à l'heure qu'elle pouvait varier entre 10 et 800 microsecondes, une deuxième diffusion relais peut se produire sur l'un des deux nuages qui est parti à plus 45 degrés et à moins 45 degrés, et qui est resté encore suffisamment anisotrope pour conduire à l'effet de superradiance. Comme il y a déjà donc des photons émis dans cette direction plus ou moins Z, la deuxième diffusion relais se fera préférentiellement dans ces mêmes directions. Alors, donc on a dans l'espace d'impulsion plus H bar K moins H bar K pour cet atome, plus H bar K le long de X, plus H bar K le long de Z. Et si j'ai une deuxième diffusion relais superadiante, j'aurai un deuxième plus H bar K dans cette direction ou moins H bar K dans cette direction. Après la deuxième diffusion relais, donc les deux nuages vont faire apparaître trois nuages, en Px égale 2H bar K, je m'excuse, il manque un 2 là, hein, et Pz égale 0, plus ou moins 2H bar K. C'est ce que j'ai essayé de dessiner ici. Voilà donc le premier condensat. Les deux nuages qui partent avec Px égale Hbarca et Pz égale plus ou moins Hbarca. Et ce nuage va me donner donc, on augmente Pz de Hbarca et Px de Hbarca, ou de moins Hbarca. On voit apparaître trois tâches maintenant à une abscisse 2 Hbarca et une ordonnée 2 Hbarca 0 moins 2 Hbarca et ainsi de suite. Et ceci se voit expérimentalement. Cette cascade de diffusion apparaît expérimentalement. La voilà ici. Ici, elle apparaît de manière particulièrement claire. Ça, c'est le condensat. Les deux premiers nuages, les trois nuages suivants, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un effet, par contre, qui n'existe pas dans la superradiance ordinaire. Cet effet de cascade de diffusion relais successive sur les nuages d'atomes. Bien, je voudrais maintenant parler un peu de la vitesse de variation de NJ. Le nombre d'atomes NJ qui reculent dans l'interaction KJ, bien sûr, par conservation, est égal au nombre de photons qui sont diffusés dans l'interaction KI le long de l'axe du condensat. J'ai calculé le taux de diffusion de photons KI le long de l'axe du condensat tout à l'heure. Il est là, R1 sinus carré θ j sur 2π sur 3 N0 oméga I. Et à partir de cette quantité-là, donc je peux dire que NJ, le nombre d'atomes diffusés, augmente proportionnellement à... Je m'excuse, le taux de diffusion de photons, c'était N0 NJ. Si je mets NJ en facteur, je vois apparaître sur NJ un gain GJ qui est donné par R1 sinus carré θ j sur 2π sur 3 N0 oméga I. Donc, la formule de tout à l'heure me permet de calculer un gain pour le nombre d'atomes qui reculent dans l'interaction KJ. Et ça, c'est une vitesse de variation stimulée par la présence de NJ. C'est parce qu'il est apparu des atomes dans cette direction, NJ, que le taux est augmenté par effet de stimulation bosonique. Et à cette vitesse de variation, il faut ajouter la vitesse spontanée, qui est simplement due à la diffusion relais spontanée d'un nombre solide oméga J, et qui est donné par ceci, R1 sinus carré θ j sur 2π sur 3 N0, le nombre d'atomes du condensat oméga j, de sorte que finalement, en ajoutant les deux, on obtient N'J égale GJ NJ plus 1, et ça c'est le résultat qu'on aura obtenu dans un traitement quantique du problème, non pas un traitement semi-classique comme celui que j'ai fait. Alors, cette formule permet de comprendre comment le condensat, la manière dont le condensat va se vider au cours du temps. La vitesse de déplétion du condensat. En absence de superradiance d'abord, quand on met les polarisations parallèles, la polarisation du laser parallèle à la selon du condensat, à ce moment-là, l'excès de diffusion dû au réseau de densité est négligeable, et je peux négliger NJ, dans le terme GJNJ dans l'expression de N'J, et à ce moment-là, la vitesse de déplétion du condensat, N'0, c'est moins le nombre total d'atomes qui sont diffusés dans toutes les directions, qui reculent dans toutes les directions sous l'effet de la diffusion relais, c'est moins sigma i de GI, c'est le terme 1, et ce terme-là m'écrit R1 N0, somme sur oméga i de sinus carré θ j sur 2π sur 3 oméga i, et cette intégrale vaut 1, de sorte que la manière dont le condensat se vide quand il n'y a pas d'effet de superradiance, c'est tout simplement R1 N0, j'en déduis que N'0 égale moins R1 N0, et le condensat se vide donc avec le taux de diffusion relais à une particule. Et on a une décroissance exponentielle du condensat, c'est ce qu'on observe expérimentalement. Si on mesure le nombre d'atomes qui restent dans le condensat, c'est la figure 2 ça, de l'article de Science, c'est les ronds vides. Quand les polarisations sont parallèles, le nombre d'atomes qui restent dans le condensat décroît avec une exponentielle, on est en papier semi-log là, et la valeur de cette exponentielle correspond au taux de diffusion relais R1. Quand il y a un effet de superradiance, la situation est différente. on voit à ce moment-là que si je reprends cette équation, une fois que NJ est devenu plus grand que 1, si je néglige la variation de JJ avec le temps, parce que JJ, n'oubliez pas, est proportionnel à N0, et quand le condensage vide, N0 diminue et JJ diminue, mais au début, disons, on peut considérer que N0 reste constant, donc j'ai un gain exponentiel, NJ croît exponentiellement, donc le nombre d'atomes qui partent devient de plus en plus rapide, croît exponentiellement, donc le condensage vide de plus en plus vite, jusqu'à ce que N0 est suffisamment diminué pour que le gain ici devienne négligeable, et à ce moment-là, N0 va diminuer de plus en plus lentement. Donc on a un phénomène qui n'est plus du tout le même que celui de tout à l'heure, où on avait une décroissance exponentielle. Le condensat va commencer par se vider comme ceci, puis il va aller de plus en plus vite, et puis il va se ralentir quand il est pratiquement vidé, que l'effet précédent n'existe plus, et c'est bien ce qu'on observe. Ici, c'est donc le nombre d'atomes dans le condensat quand les polarisations sont perpendiculaires. On voit donc que ça part avec à peu près la même pente que tout à l'heure, puis ça s'accélère, et puis ça ralentit quand le nombre d'atomes dans le condensat est pratiquement devenu nul. Et cet effet-là rappelle beaucoup l'effet de superradiance. Je vous montrerai la semaine prochaine ou dans deux semaines que quand on a un ensemble d'atomes excités, ils commencent à émettre avec un taux qui est le taux d'émission spontanée normale, et puis ils se mettent en phase les uns avec les autres, ils émettent de plus en plus vite, de plus en plus vite, et puis quand ils sont pratiquement tous dans l'état fondamental, le taux d'émission se ralentit. Donc c'est exactement un phénomène qui rappelle beaucoup la superradiance habituelle. Alors, il y a une question aussi qu'on peut se poser. Jusqu'à présent, on observe les atomes qui reculent, mais ces atomes reculent préférentiellement dans cette direction parce que les photons sont émis préférentiellement dans cette direction. Donc, est-ce qu'on peut voir les photons? Donc, si on met une caméra, et on peut vérifier effectivement que les photons sont émis préférentiellement, soit dans la direction plus Z, soit dans la direction moins Z, en prenant l'axe Z le long de l'axe long du condensat. Et effectivement, donc, il y a l'observation de la lumière émise. Donc on observe effectivement que le recul des atomes dans la direction KJ est accompagné d'une émission de lumière dans la direction de l'axe du condensat. Alors, je vous montrerai tout à l'heure la figure. On trouve que cette lumière est émise dans un angle solide qui correspond justement à l'angle de diffraction d'une surface de 14 microns de diamètre, qui correspond effectivement à la section du condensat par la surface de la section du condensat par un plan perpendiculaire à son grand axe. Et la lumière est émise sous forme d'une impulsion avec un flanc de montée très raide suivi donc d'une décroissance de plus en plus rapide de N0 dans la phase initiale du processus d'émission. Effectivement, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà la figure 3 A et 3B de la référence. La figure 3, l'état ici, représente le signal donné par la caméra dans la direction du grand axe du condensat, et on voit une tache bien définie. Et ici, c'est l'enregistrement du signal émis, lumineux émis dans cette direction, en fonction du temps, pour une intensité faible, et de plus en plus grande du faisceau pompe, et on constate que le flanc de montée est de plus en plus rapide au fur et à mesure qu'on augmente l'intensité du faisceau pompe, parce que là, l'effet de superradiance est de plus en plus important. Ici, la deuxième figure qui est ici correspond à la cascade de diffusion où on voit apparaître successivement la deuxième diffusion relais sur l'un des deux premiers nuages qui recule avec dans les directions plus ou moins 45 degrés. Donc voilà l'observation de la lumière émise. Et je voudrais enfin maintenant montrer qu'il y a un seuil. En effet, là je reprends le raisonnement que j'ai fait au tout début du cours, qui est encore marqué ici. Le réseau de densité a un temps défini, parce que la première figure que j'ai montrée où on voit l'onde, le nuage qui recule, va quitter le condensat au bout d'un temps qui est lié à sa vitesse. Et on trouve que, effectivement, le temps de cohérence du condensat, c'est 1 sur K delta V, où delta V égale P sur M, c'est la dispersion des vitesses. Un calcul plus précis montrerait aussi qu'il faut tenir compte du fait que la correction d'énergie liée aux interactions est inhomogène d'un point à l'autre du condensat, parce que la densité n'est pas la même. Et là aussi, il y a une largeur due aux interactions qui intervient dans l'amortissement du réseau de densité. En fait, de manière plus précise, on peut montrer que le temps de cohérence, c'est l'inverse de la largeur du spectre de diffusion observé dans les expériences que j'ai décrites la semaine dernière, et qui comporte deux parties, l'une due aux interactions, l'autre due à l'effet Doppler. Donc, en tout rigueur, donc, il faut ajouter dans NJ un terme d'amortissement qui est ce temps de vie du réseau de densité, et écrire N'J égale GJ moins LJ, NJ, où LJ, c'est l'inverse du temps de cohérence que j'ai calculé tout à l'heure, et vous voyez à ce moment-là que la diffusion superradiante ne pourra apparaître que si l'intensité laser du faisceau pompe, qui apparaît dans GJ, est suffisamment grande pour que GJ soit supérieur à LJ. Donc, si on a une intensité laser trop faible, il n'y a pas d'effet de superradiance, et puis il y a un seuil, quand GJ devient plus grand que LJ, il y a un seuil, et ceci est également observé expérimentalement. En effet, on voit ici. J'espère que j'ai amené la figure. Oui, la voilà. On voit ici, en fonction du taux de diffusion, c'est-à-dire en fonction de l'intensité lumineuse, on voit l'inverse du temps de montée de l'impulsion. Et on voit qu'elle est d'abord extrêmement molle. Et puis, à partir d'un certain temps, elle décroît très vite. On voit très bien ici l'existence d'un seuil. Et en calculant cette valeur-là, on trouve que la valeur correspondante ici du GJ est juste égale à l'inverse du temps de cohérence obtenu dans les expériences décrites la semaine dernière dans la diffusion d'un photon par le condensat. Donc, le phénomène est bien compris. Enfin, je représente ici un dernier effet. Oui, qui n'est autre que le réciproque de la vitesse de déplétion du condensat. Ici, c'est le nombre d'atomes qui reculent dans la direction plus ou moins 45 degrés en fonction de l'intensité, de la durée de l'impulsion laser. C'est évidemment le complémentaire de la vitesse de déplétion du condensat. On voit que, suivant l'intensité du faisceau laser-pompe, quelque chose de caractéristique d'un processus superradiant, le nombre d'atomes qui reculent dans la direction à 45 degrés commence à croître tout doucement, puis il croît plus vite et puis se stabilise quand le condensat est vidé, et idem pour une valeur plus importante de l'intensité du faisceau-pompe. Donc, je peux conclure la description de cette expérience par le transparent suivant. On peut se demander pourquoi ces effets ne sont pas observés depuis longtemps dans d'autres systèmes. La réponse est claire, c'est qu'il faut absolument avoir un condensat. Parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ces effets doivent exister aussi. Et il y a une certaine manifestation de ces effets dans les expériences d'optique non linéaire. Mais il faut que la durée de vie du réseau de densité soit suffisamment longue pour que l'effet apparaisse. Dans un nuage d'atomes thermiques, delta V est tellement grand que le temps de cohérence est tout petit et les premiers processus de diffusion ne laissent pas une empreinte qui dure suffisamment longtemps pour influencer les suivants. Bon, j'ai le temps donc maintenant de commencer la description de l'expérience suivante. Donc, la semaine prochaine, je décrirai une autre expérience qui est vraiment corrélative de celle-là, et je parlerai de la superradiance. Donc, j'ai le temps de commencer peut-être 4 ou 5 transparents du cours suivant. Alors, ils seront distribués la semaine prochaine. Hein. Je ne vous ai pas porté aujourd'hui, mais ils sont distribués la semaine prochaine. Alors, la prochaine expérience que je voudrais décrire, qui se situe tout à fait dans le prolongement de celle-là, c'est une expérience d'amplification d'onde de matière. Alors, en optique, il existe deux types de composants. Des composants passifs, comme les miroirs, les lames séparatrices, les lentilles, et des composants actifs qui sont extrêmement importants, comme les amplificateurs. Et c'est ça qui permet d'amplifier des ondes, de les guider et de les régénérer. En optique atomique, jusqu'à ces derniers temps, on a réussi à trouver l'équivalent de tous les composants passifs. On sait faire des miroirs atomes, on sait faire des lames séparatrices atomes, on sait couper des ondes de Brillouin 2 de manière cohérente. Et ce n'est que très récemment que des dispositifs permettant d'amplifier des ondes de matière atomique ont été réalisés. Et il y a eu deux expériences qui ont été publiées à la fin de l'année 99, à la fin de l'année dernière, l'une à MIT, l'autre à Tokyo, où il a été démontré qu'on pouvait amplifier de manière cohérente des ondes de matière. Et ces expériences sont une exploitation directe de l'effet dont je vous ai parlé aujourd'hui. Alors, avant de commencer la description de ces expériences, qu'est-ce qu'on attend d'un amplificateur d'ondes de matière? D'abord, à la différence des photons, les bosons ne peuvent pas être créés ex nihilo. On ne peut pas les créer à partir du vide. Donc, si on veut amplifier une onde de matière, mettre plus de bosons dans une onde de matière, il faut absolument les prendre quelque part ailleurs. Donc, il faut qu'il y ait un réservoir. Il faut qu'il y ait un réservoir d'atomes. Il faut qu'on dispose d'un mécanisme physique permettant de transférer les atomes de ce réservoir vers le mode vide qu'on désire amplifier. Et le point clé, c'est qu'au fur et à mesure que ce mode qu'on désire amplifier se peuple, le transfert des atomes du réservoir vers ce mode va être accéléré par stimulation bosonique. Et il est bien sûr important de disposer d'un condensat de Bose-Einstein comme réservoir, parce que comme c'est apparu aujourd'hui, ce réservoir contient beaucoup d'atomes, d'une part, et d'autre part, le temps de cohérence est très long et permet donc de réaliser des effets importants. Donc c'est la raison pour laquelle, disons, ces expériences n'ont pu déboucher qu'avec l'utilisation de condensat de Bose-Einstein comme réservoir d'atomes. Alors, transfert d'impulsion et d'énergie. L'impulsion et l'énergie des atomes changent lorsqu'ils passent du réservoir au mode à amplifier. Et d'où vient cette impulsion, cette énergie? Ça, c'est facile à comprendre. Cette impulsion, cette énergie vont être fournies par la diffusion, par exemple, la diffusion Rayleigh d'un photon. En effet, quand le photon incident passe de K0 à KI, il donne à l'atome qui le diffuse une impulsion donnée, K0 moins KI, lui donne une énergie, parce qu'en général, la fréquence du photon incident et la fréquence du photon diffusé ne sont pas les mêmes. Donc, le transfert d'énergie de l'impulsion pour passer du réservoir au mode amplifié sont fournis par le photon qui est diffusé. Je signale également qu'il y a beaucoup de travaux théoriques partant des équations complètement quantiques pour étudier ces problèmes. En particulier, il y a des travaux de Mestre et Moore, d'une part, de Low et Bigelow. Mais dans ces travaux, on suppose en général que l'onde qu'on amplifie se trouve dans une cavité. Et elle est dans une cavité, on fait croître l'onde dans la cavité. Ici, dans les deux expériences qui vont être décrites dans ce cours, l'onde qui est amplifiée se propage dans l'espace libre. Donc c'est un amplificateur dans l'espace libre, ce n'est pas un amplificateur dans une cavité. Mais enfin, les calculs qui sont ici donnent quand même une idée physique des phénomènes. Alors, je vais me contenter aujourd'hui, avant de m'arrêter, de vous donner, comme je l'ai donné ici pour l'effet de superradiance, une explication semi-classique du gain. Alors maintenant, on part d'un condensat, mais on envoie sur ce condensat, non plus un photon, d'abord envoyant une onde de matière. Envoyons donc une onde de matière de vecteur d'onde KJ. Cette onde de matière va interférer avec le condensat, et va faire apparaître un réseau de densité dont les plans des cuivrades vont être perpendiculaires à KJ. C'est un réseau de densité de vecteurs d'onde KJ. Alors, supposez maintenant que j'ajoute à ce dispositif un faisceau laser pompe, K0. Donc j'ai une onde incidente, le faisceau laser pompe va être diffracté par le réseau de densité produit par l'interférence entre l'onde entrante et le condensat, et elle va être diffusée, diffractée dans la direction KI. Comme elle est diffractée dans la direction KI, les atomes qui diffusent le photon K0, de K0 vers KI vont reculer et l'onde de matière dans la direction KI va augmenter. Le réseau va augmenter de densité, la diffusion va augmenter et l'onde de matière va augmenter. Donc vous voyez que c'est un peu la même chose que j'ai décrit aujourd'hui, mais ici je pars d'un réseau de densité qui est créé d'abord par l'onde de matière que je désire amplifier, et la présence du faisceau laser pompe va faire que cette onde de matière va croître au cours du temps. Les atomes qui reculent ainsi, avec le verte d'onde KJ, renforce le réseau de densité, ça augmente la diffusion relais du faisceau pompe, et ça conduit finalement à une augmentation exponentielle du nombre d'atomes dans le mode amplifié, bien sûr limité par le temps de vie du réseau. On retrouve l'importance d'avoir un temps de cohérence long, et on a donc une équation tout à fait équivalente à celle que j'ai obtenue aujourd'hui, mais la différence de l'expérience que je vais décrire la semaine prochaine par rapport à celle que j'ai décrite aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'avais uniquement le faisceau laser pompe et l'onde de matière apparaissait spontanément, de même que l'onde diffusée dans la direction KJ. Ici, au contraire, on rentre une onde de matière entrante et on l'amplifie en présence du laser pompe. Et on regarde, alors il faudra étudier deux choses. Quel est le gain en nombre d'atomes? De combien on arrive à augmenter le nombre d'atomes dans l'onde de matière? Et deuxième point important, est-ce que cette amplification préserve la phase? Est-ce qu'elle est cohérente? Il faudra donc faire des interférences ensuite sur l'onde qui sort pour vérifier le caractère cohérent de l'amplification. Donc, je crois que c'est un bon moment pour m'arrêter là. En fait, il y a eu deux expériences qui ont été réalisées, l'une dans le groupe de Ketterle sur des atomes de sodium, et l'autre dans un groupe japonais à Tokyo, de Kozuma, sur des atomes de rubidium, et c'est extraordinaire, les variations sont extrêmement voisines l'une de l'autre, elles sont parues à moins d'intervalle. Il y a simplement la disposition des faisceaux laser qui n'est pas la même, mais les résultats sont extrêmement semblables. Donc je m'arrête ici, et la semaine prochaine, je terminerai la description d'une expérience d'amplification de l'onde de matière, et je ferai un petit appendice, pas trop long, sur la superradiance. Alain et Jean, c'est ça quand même.